Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute du 156e numéro de Mélomanie et ça va être le dernier de la saison pour votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Une émission que nous aurons pu maintenir vaille que vaille malgré une saison musicale très perturbée et largement tronquée hélas, mais qui joue les prolongations plus que de coutume. Alors que les restrictions sanitaires sont peu à peu levées, de nombreux événements sont programmés en ce mois de juillet et il va falloir en profiter parce qu'il y a beaucoup de propositions de très haut niveau et de très haute tenue. Je pense tout particulièrement aux Nuits d'été, cette mini-saison de concerts et récitals qui va avoir lieu au Théâtre du Capitole du 6 au 21 juillet. Nous avons justement la chance de recevoir aujourd'hui Christophe Gresti, le directeur artistique du Théâtre du Capitole, invité d'honneur de cette émission et organisateur, concepteur de ces Nuits d'été au Capitole. J'ai aussi le plaisir de retrouver à ses côtés mon ami Robert Pénavert, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. C'est d'ailleurs avec Robert que je vous propose de revenir sans plus attendre sur l'actualité musicale du moment pour notre traditionnelle rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
L'actualité musicale récente et présente, eh bien c'est Elektra et c'est au Théâtre du Capitole. L'opéra de Richard Strauss y est donné jusqu'à ce dimanche 4 juillet où la dernière va avoir lieu à 14h30 et je le dis d'emblée, il reste des places. Robert, vous avez assisté à une des premières représentations. Avez-vous aimé cette nouvelle production mise en scène par Michel Faux? Michel Faux qui semble beaucoup se plaire au Théâtre du Capitole.
Alors ben oui, nous avons cette chance et je sais pas, j'ai l'impression que nous la devons à Christophe Gresti, peut-être qu'il nous en parlera un peu tout à l'heure, mais ben, je voudrais revenir sur cette saison. Alors vous dites qu'effectivement, Eric, elle a été particulièrement bousculée, mais comment se termine-t-elle? C'est avec une reprise en version concert, certes, mais avec une distribution somptueuse de La Force du Destin, et puis maintenant dans une version scénique et dans la version qui avait été proposée avant la pandémie, donc version scénique de cet Elektra. Alors c'est le retour d'Elektra à Théâtre du Capitole, puisque auparavant et pendant 3 ans, cet opéra a été donné à l'Allograin. Il y avait des raisons, de bonnes raisons, puisque donc, c'est un opéra qui demande un effectif orchestral de plus de 100 musiciens, et donc à Force du Capitole, il n'y a rien à faire et il n'y rentre pas.
Ça
ne
loge pas surtout dans des conditions sanitaires.
Oui, oui, non. Mais en plus, voilà,
comme
exactement.
C'était le cas,
ça, c'était pas jouable. Or, en fait, certes, il y a des opéras dont on peut réécrire la partition, la diminuer, mais bon, Richard Strauss, non, c'est simplement pas possible. Surtout pas Elektra, d'ailleurs. Donc, Christophe Gresti avait proposé ce challenge à Michel Faux. J'ai eu le plaisir de rencontrer Michel Faux. Il m'a dit que non seulement il adore Richard Strauss, mais en plus, il adore Elektra et Salomé. Donc, le challenge était, Christophe Gresti, de lui dire « Ok, c'est au Théâtre du Capitole, mais moi, je veux l'instrumentarium d'origine. » Et donc, il a réfléchi, cet homme, ou je ne sais pas, peut-être que Christophe Gresti a participé à la réflexion, mais dans tous les cas, ils ont trouvé une solution que, j'emploie pas ce mot souvent, parce que je trouve qu'on l'emploie trop souvent, mais c'est une solution géniale. Parce qu'il a, au travers de cette solution scénique adoptée, il a mis en perspective tout ce qui est le fondement même de l'art lyrique, c'est-à-dire le théâtre, le chant et la musique. Et vraiment, le twist final, c'est-à-dire ce qui se passe en gros 5 ou 7 minutes avant le final, ça a soulevé des hauts d'enthousiasme, de stupeur, de stupéfaction, d'ébahissement dans la salle. Voilà. Je n'en dirai pas plus pour les personnes qui ne l'ont pas vu. Je
ne
veux pas spoiler quand
et
même.
Et la découverte, le plaisir de la découverte.
Parce que c'est un choc, ce qui se passe. Voilà.
Non, ça prend une autre dimension, hein, si je comprends
tout
bien
à fait,
ce que vous dites.
Tout à fait. Et là, on comprend pourquoi l'art lyrique est fait de théâtre, de chant et de musique.
Alors jamais. Peut-être que Christophe Gresti peut dire un mot là, donc, sur cette production et sur la façon dont Michel Faux l'a abordée et mise en scène.
Bah, je suis absolument enchanté de tout ce que dit Robert Pénavert, bien sûr. En effet, donc le dispositif, on peut le dire, parce que ça c'est pas une surprise, est inversé. C'est-à-dire que l'orchestre est sur le plateau et nous jouons dans la fosse qui est construite comme un décor. Bon, voilà, il y a eu une cuisine, évidemment, pour en arriver à cette décision. Mais elle était pour nous claire depuis le début et faisait l'un des intérêts de ce projet, c'est-à-dire de renverser le dispositif habituel de la maison. Et une œuvre aussi folle que l'Electra de Strauss demande à ce qu'on renverse elle-même renverse tous les codes, donc qu'on renverse tout de même nos dispositions habituelles. Après, en effet, c'est une œuvre qui va très bien à Michel Faux parce que je ne parle pas personnellement, mais comme artiste depuis très longtemps. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que, notamment dans le milieu de la musique, qui pensent que Michel Faux est né avec une mise en scène de Ciboulette il y a 5 ans, 6 ans, je ne sais plus, à l'Opéra Comique à Paris. Moi, Michel Faux, je ne l'ai pas connu avec Ciboulette. Je l'ai connu dans Claudel, je l'ai connu dans Shakespeare, je l'ai connu dans Ibsen. Et donc, c'est pour moi un des plus grands comédiens français, au sens de comédien avant tout de théâtre. Il a fait du cinéma aussi, mais...
Et tragédien.
Et tragédien. Et donc, si vous voulez, c'est pour ça que l'Electra, qui est donc une grande tragédie moderne, puisque c'est une tragédie qui a été écrite au début du XXe siècle, d'après les modèles antiques, mais qui l'échange quand même beaucoup. C'est pour ça que, pour moi, c'était l'homme de la situation, parce que je l'ai connu dans ce répertoire-là, en quelque sorte. Je l'ai connu comme tragédien. Et donc, je sais qu'il connaît, il n'est pas le seul, évidemment, mais je sais qu'il connaît ce répertoire de la tragédie et cette notion de la tragédie, comme peu de gens aujourd'hui. Il y a Olivier Pic qui sait ce que c'est qu'une tragédie, ça c'est sûr. Anne Delbé sait ce que c'est qu'une tragédie, elle a mis Racine en scène toute sa vie. Il y en a évidemment d'autres. Et évidemment, donc on a beaucoup parlé ensemble sur le spectacle. Vous voyez, il y a une chose qu'il dit et qui m'intéresse particulièrement et qui est très à contre-courant, c'est que la tragédie n'est pas le drame, la tragédie n'est pas une chose sordide. La tragédie est une chose flamboyante, vivifiante, parce qu'elle requiert toute l'énergie de la vie pour résister à un destin qu'on ne veut pas. Et donc, c'est vrai que je pense qu'on a tous un peu marre de voir des spectacles noirs et blancs, des spectacles en trench coat, des spectacles en costume trois pièces. Voilà, le théâtre, c'est pas ça. Le théâtre, c'est autre chose. Et je sais qu'avec lui, comme avec quelques autres, je sais qu'on sera dans un vrai univers théâtral, pas réaliste. Et c'est vrai que moi, le réalisme au théâtre et à l'opéra, quand il n'est pas expressément demandé par la pièce, me fatigue et me lasse, et même à la fin me révolte, parce que c'est une paresse. Donc voilà, donc je suis heureux que nous ayons fait une chose qui ne soit pas réaliste.
Et qui sorte du cadre. Alors, Robert, voilà. Sur la distribution, les interprètes,
voilà.
Et la direction musicale.
Et la direction musicale, oui, parce qu'en fait, c'est une œuvre dans laquelle on ne peut pas séparer les acteurs. C'est pas possible. Alors, on peut commencer d'abord le travail de Michel Faux, effectivement. Christophe Gristy vous l'a expliqué, vous a dit tout ce qu'il avait fait. En plus, il faut dire qu'il s'était adjoint le concours de gens de théâtre de très grande qualité, entre autres Christian Lacroix pour les costumes. Alors, les costumes sont extraordinaires, le costume de Clytemnestre, lorsqu'elle arrive, c'est un fleuve de sang qui arrive. Enfin, cela dit, ça correspond assez au personnage d'ailleurs. Hein. Ensuite, il y a la scénographie de Phil Meyer, les peintures, l'orchestre, un grand orchestre. Il y avait combien de musiciens, Christophe ?
Il y a 85 musiciens.
Ah oui, là, c'est
85
musiciens. Cavalerie, si je puis dire.
Mais en fait, on les entend très très bien, mais on les devine plus qu'on les voit, puisqu'ils sont séparés de la scène par un rideau, un tulle qui est peint avec des scènes. Bon, évidemment, ce ne sont pas forcément des scènes champêtres qui n'auraient pas très bien correspondu, c'est le moins qu'on puisse dire, mais des personnages. Alors voilà, il me semble que j'ai retrouvé un peu des traits, des faciès à la Bacon, un peu le style de Klimt, mais enfin, bon voilà. Mais ce n'est pas volontairement, il ne réplique pas ces choses-là. Mais ça fait penser quand même à ce début de siècle, du XXe siècle. Ça fait penser à une certaine décadence aussi. Je sais que Michel Faux y tient absolument à ce terme en parlant d'Electra et de cette époque-là. Je rappelle que c'était écrit en 1909. Hein. Donc voilà, on est un peu dans cette mouvance. Il y a des éclairages également somptueux qui sont de Joël Fabing et qui participent complètement au drame, puisque en fait, ils éclairent parfaitement les situations au moment où elles se passent. Voilà.
Ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que tout est signifiant et que tout fait sens.
Ah mais tout, absolument tout. Le moindre geste, la moindre attitude, le moindre déplacement, voilà. Alors sur scène, il y a une statue d'Agamemnon, évidemment, qui a été déboulonnée, bien sûr, oui. Et puisque bon, c'est ce qui s'est passé dans cette famille des Atrides. Et on voit bien sa tête. Alors, il y a plein de pics. Est-ce que c'est une couronne christique? On ne sait pas, mais en fait, ce n'est pas le problème. C'est le personnage qui a été sacrifié, en tout état de cause, sur un autel qui n'était pas très, très brillant. Voilà. Et puis, je pense qu'il adore ça, Michel Faux, parce que, comme il m'a dit, au moins là, on peut faire jouer. En fait, c'est un drame intimiste. Il y a une musique monumentale pour un drame intimiste. C'est-à-dire, il n'a pas assuré des défilés, assuré des grands chœurs, assuré tout ça. Non, non, il a à se concentrer sur les personnages. Et Dieu sait s'il y a des choses à faire dire aux personnages. Justement, les personnages, le casting, alors bon, c'est simple. Je pense qu'il a dû faire rougir d'envie tous les grands tas de la planète. Je ne parle pas de...
Oui, on ne reste pas sur le territoire national.
Non.
C'est la distribution vraiment d'envergure et de qualité
je vois pas,
de niveau international.
Je ne vois pas comment aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui,
on pourrait
bien
faire
sûr,
mieux.
À Paris, à New York, à Milan ou à Vienne, on peut avoir mieux. À titre d'exemple, bon, il y a un personnage... on va le dire, relativement secondaire en termes de participation à la partition, c'est le personnage d'Oreste. Il doit chanter, je ne sais pas, 10 mesures, 15 mesures, 20 mesures, allez, 30. Bon, voilà. Bon, c'est-à-dire, il est sur scène très peu de temps. C'était Mathias Gern, qui est l'un des plus grands barytons en activité.
On commence à le savoir à Toulouse.
Voilà, ben, on le sait, fort heureusement.
Puisqu'on on l'entend tous les ans en récital depuis 2 ou 3 ans maintenant.
Voilà.
Donc habitué de la scène du Capitole, mais aussi des scènes les plus prestigieuses.
Voilà, puis on l'avait entendu dans un rôle un peu plus signifiant, qui était celui d'Amfortas, dans la dernière reprise de Parsifal. Et bon, l'entendre dans Oreste, c'est au-delà du luxe. Mais bon, après, le luxe n'a pas de limite, nous le savons bien. Alors ensuite, c'est vrai que les 3 personnages principaux sont des personnages féminins. Et le personnage principal des personnages principaux, c'est Electra, un rôle réputé, à juste titre, inchantable. Soit vous avez une technique en béton, soit vous n'arrivez pas à la fin du monologue. C'est simple, puisqu'elle ne quitte pas la scène. Et puis alors, l'orchestration est extrêmement puissante, c'est-à-dire qu'elle a à s'exprimer dans le médium, dans le grave et dans l'aigu, n'en parlons pas, jusqu'à des si bémols si naturels et contrutes, mais absolument telluriques, qui mettraient à bas n'importe quelle Brunhilde. Mais derrière, c'est pas un orchestre de chambre, c'est-à-dire il faut qu'elle traverse en même temps un univers sonore absolument colossal. Eh bien, les cantatrices capables de faire ça se comptent à peu près sur les doigts d'une main, par génération. Et encore, parfois il y a des générations...
Bon, il y a un creux.
Où il y a un creux, voilà. Eh bien, Christophe Christy nous a fait venir l'une de celles-là, qui s'appelle Ricarda Merbet, qu'on avait déjà entendue au Capitole, rarement, mais dans un rôle, elle avait chanté La Comtesse des Noces de Figaro, ce qui n'a pas grand-chose à voir, à vrai dire, avec Electra, mais rien du tout, même. Et donc, mais la voix a terriblement évolué, son répertoire a évolué également, mais pas sa manière de chanter, c'est-à-dire elle reste toujours très musicale, très musicienne, très attentive aux nuances, enfin, et puis avec une voix extrêmement homogène, du haut jusqu'en bas, avec une projection étonnante, des dynamiques qui laissent abasourdir. On se demande comment, techniquement, elle peut passer à des spintos complètement telluriques, et puis, juste derrière, à des notes ténues, des demi-teintes. Enfin, mais c'est ça, les grands artistes, c'est ça, et c'est pas autre chose. Bon, voilà, bravo. Moi, je n'ai jamais entendu une Electra de cette taille au Théâtre du Capitole. Jamais. Et ailleurs, bon, j'en ai entendu, mais c'était, bon, bah, comme tout le monde, à l'époque, l'Opéra de Paris avec Béry Nilsson, enfin, bon, ok, mais c'était une autre époque, ça, c'était il y a 50 ans ou à peu près. Mais évidemment, elle n'est pas seule à suffire, donc derrière, il y a sa petite sœur, Chrysothémis, qui, elle, a un rôle encore plus délicat, parce qu'elle a un rôle également de soprano lyrique très, très tendu, très orchestré aussi, mais elle a une voix beaucoup plus claire, bien sûr, c'est la composante de son personnage, dramatiquement. Elle doit également montrer, au travers de sa ligne vocale, toute sa fragilité, tous ses questionnements. Elle ne se pose pas la question de tuer sa mère, son beau-père, etc. Non, ce n'est pas du tout l'histoire. Elle veut avoir des enfants. Elle est dans la maternité, dans la féminité, alors qu'Electra, elle est dans la vengeance, dans la haine, dans le sang, dans la violence. Donc, il faut 2 sopranos complètement différentes. Et c'est une soprano qui s'appelle Johanna Ruzanen. Personnellement, c'est la première fois que je l'entendais. Ben, j'imagine que j'espère que ce n'est pas la dernière fois, au Capitole en particulier. Elle était évidemment à l'image de ce spectacle. Et puis ensuite, il y avait Violata Ormana qui chantait ce rôle qui est le plus terrifiant, je crois, de tous les rôles de mezzo-soprano, qui est le rôle de, évidemment, l'épouse meurtrière qui est
Clytemnestre.
Son arrivée dans une espèce de boîte remplie de poignards, de dards. Déjà, elle est dangereuse. Rien qu'à la voir arriver. Elle est dans un costume, Christian Lacroix l'a habillée dans une espèce de fleuve de sang, mais somptueux. Sous ce fleuve de sang, on voit, on aperçoit une robe pailletée, rouge sang également. C'est totalement bluffant. Quant à la cantatrice, bon, elle, je ne dis pas qu'elle s'amuse de ce rôle, mais nous, à l'entendre, on dirait qu'elle ne fait aucun effort. Alors, en fait, c'est un rôle très difficile aussi à chanter, bien sûr, avec des creux abyssaux qu'elle projette dans la salle, mais comme des claques, mais qui vous donnent le frisson. Moi, j'ai le frisson rien que de m'en souvenir. C'est-à-dire, c'était extraordinaire. Voilà. Ensuite, il ne faut pas oublier, bien sûr, les seconds rôles. Alors, il y a un rôle, pas tout à fait un second rôle, c'est Égiste. Mais alors, lui, chante encore moins qu'Oreste. Hein.
Oui, l'amant de Clytemnestre.
L'amant de Clytemnestre, voilà. C'est Frank Allen Aken. C'est un ténor que j'entendais également pour la première fois. Mais dès que vous l'entendez, dès ses premières apparitions, dès le premier son, vous sentez qu'il en a vraiment, comme on dit un peu trivialement, pardon, mais
sous le pied.
Sous le pied, voilà. Mais effectivement, quand on regarde un peu son parcours, c'est un ténor. C'est-à-dire, c'est un garçon qui chante Tristan, qui chante des rôles comme ça. Enfin, moi, franchement, et je ne suis pas le seul, j'espère que ce n'est pas la première et dernière fois qu'on l'entend à Toulouse. Je me retourne vers Christophe, il me fait signe.
Mais je pense qu'il note à chaque fois, faire revenir.
Oui, c'est un peu le jeu.
Ce qui est étonnant dans cet ouvrage, c'est qu'en effet, les deux rôles masculins sont des rôles qui sont assez brefs, pour trois rôles féminins. Mais en même temps, ce sont des personnages majeurs dans le drame. C'est le frère qu'on attend, Oreste, qui va accomplir la vengeance, et c'est le meurtrier du père, et c'est le frère d'Agamemnon qui a tué son frère. Et vous ne pouvez pas distribuer ces personnages, même s'ils n'ont qu'une scène et brève, à des gens qui sont moins bien que les trois personnages féminins, puisque c'est la même famille. Donc, vous êtes obligé d'avoir des gens de premier ordre
qui sont à la hauteur des autres rôles.
Dans ces rôles-là. Et ces rôles prennent évidemment tout leur sens et leur saveur qui est merveilleuse quand ils sont tenus par de très grands artistes. Ça ne marche que comme ça. C'est vraiment en quelque sorte des rôles de guest star, si vous voulez, qui viennent faire un numéro 3 minutes.
Bah, c'est comme dans ces films où il y a un acteur très connu qui va faire une apparition, mais cette apparition, si elle n'y est pas, le film se casse la figure.
En tout
cas, il n'a pas la même ampleur.
Enfin, moi, je ne peux pas l'envisager autrement qu'en ayant des gens de premier ordre.
Voilà, alors bon, cela dit, vous n'êtes pas forcément très nombreux à envisager ça. Parce que combien de fois j'ai entendu Electra avec, dans le rôle d'Égiste, des ténors largement en fin de carrière. Et ça devient caricatural. Et c'est dommage. Alors ensuite, des seconds rôles superbes, somptueux. On ne peut pas tous les citer parce que nous n'avons pas le temps, c'est dommage. Mais par exemple, l'apparition de Vincent Thiel, qui a trois mots à dire, mais tout d'un coup, bim ! Alors d'abord, il est habillé somptueusement, il faut reconnaître. Hein. Et puis, dès qu'on l'entend, on s'est dit, voilà comment un second rôle doit être distrait. Enfin, c'est même un troisième rôle, même. Mais peu importe, c'est un rôle. Dans Electra, il n'y a pas de second rôle. C'est pas vrai. Et tout est à l'avenant. Et puis ensuite, évidemment, il y a un moment, vous allez découvrir, dès le début, dès les premiers accords, mais à un moment, vous allez découvrir, il va vous pénétrer, vous bousculer, vous renverser. Et l'orchestre dirigé par Frank Berman, qui est donc le chef qui nous avait magnifié littéralement Parsifal, mais qui l'a magnifié, pourquoi ? Parce que, il faut le dire, on a une grande phalange orchestrale et peu de théâtres. Moi, je vois pas. Franchement, je tourne un peu, mais à part Paris et Toulouse, je ne vois pas quelles autres phalanges françaises, je dis bien françaises, sont capables de jouer Wagner et Strauss de cette manière-là. Et vraiment, Frank Berman nous en fait une démonstration, encore une fois, éblouissante de couleurs, de dynamisme. Enfin, c'est magnifique. Hein. Alors, je suis peut-être dithyrambique, hein, mais c'est parce que je le sens, ça vient du fond du cœur, parce que je ne peux pas dire autre chose.
Alors, vous n'êtes pas le seul, Robert, je peux confirmer que beaucoup de gens ont eu les mêmes impressions que vous, donc non, vous n'êtes pas dithyrambique, je pense que vous êtes juste. Vous disposez encore d'une représentation pour découvrir cette distribution dimanche 4 juillet à 14h30 au Théâtre du Capitole, dans la production, nouvelle production d'Electra, mise en scène par Michel Faux. Voilà donc pour ce petit retour sur l'actualité musicale du moment. Petite pause avant de retrouver Robert Pénavert et Christophe Gresty pour vous présenter la programmation des Nuits d'été au Théâtre du Capitole. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
Nous allons rester au Théâtre du Capitole pour cette partie agenda en compagnie de celui qui dirige cette vénérable institution toulousaine et qui a conçu la programmation des Nuits d'été. Deux semaines de concerts et de récitals du 6 au 21 juillet. Le titre de cette mini-saison estivale renvoie bien sûr au célèbre cycle de mélodies de Berlioz. C'est un nouvel événement, inhabituel à ce moment de l'année, le Capitole étant jusqu'alors fermé en juillet-août. Ça m'inspire deux questions. Ces nuits d'été sont-elles destinées ponctuellement à prolonger une saison pour une large part escamotée en raison de la crise sanitaire ? Comme je le disais en début d'émission, ce serait donc une manière de faire revenir le public au Capitole en lui proposant des affiches très prestigieuses. ou alors il s'agit vraiment du lancement d'un événement appelé à se reproduire chaque année et à se pérenniser au mois de juillet. Alors dites-nous tout, Christophe Gresty.
Alors pour l'instant, c'est la première solution. Pourquoi cette manifestation ? C'est qu'en effet, donc nous avons repris notre activité à la mi-mai avec la Force du Destin, après 7 mois, je crois, d'annulation, depuis la mi-octobre à peu près. Et il me semblait vraiment pas imaginable. Notre planning est fait de telle façon que nous terminons notre saison d'habitude début juillet, le premier jour de juillet, et nous commençons à répéter fin août, ce qui fait une première fin septembre. Ça veut dire une fermeture à peu près de 3 mois. Donc il me semblait inimaginable, au moment où nous rouvrons, de refermer pour une aussi longue période. Donc je pense que c'est aux alentours du mois de mars ou quelque chose comme ça que j'ai commencé à penser à ce qui ne s'appelle pas un festival. Parce qu'il me semblait inimaginable de fermer la maison si longtemps. Et je crois qu'il y a des signaux à donner au public. Il faut dire, nous sommes là. Nous vous accueillons, nous sommes une maison ouverte. Les artistes aussi ont besoin de reprendre leur activité. Je le dis très simplement, nous sommes en période d'abonnement pour la saison prochaine, etc. Le public a été extrêmement patient aussi, je veux dire, même si à chaque fois nous avons fait tout ce que nous pouvions pour ouvrir dans les conditions qui étaient, je crois que vraiment nous n'avons rien annulé qui pouvait être donné. On a changé les horaires, on a donné une version abrégée d'une œuvre. C'était le cas pour La Force du Destin l'après-midi. On a dû réorganiser les plans de salle. Enfin, et le public a été là avec nous. Je crois qu'il fallait aussi, en quelque sorte, le remercier. Et d'ailleurs, je le fais à chaque fois. Et pour sa patience, pour sa fidélité, pour sa passion. Et c'est aussi comme ça qu'a été construit ces nuits d'été. Parce que c'est quasiment, il y a un cadeau par jour. C'est des bonbons, les arbres. Et je crois qu'on a besoin de se faire du bien. On a besoin d'entendre de choses qui nous font du bien. C'est vraiment toute une série de cadeaux pour le public.
Et donc, peut-être que suivant l'adhésion du public, cet événement pourrait se reproduire l'année prochaine, l'année suivante, et ainsi de suite. Pourquoi pas ?
En un sens, c'est presque pas à moi de le dire, si vous voulez.
Oui.
C'est parce que un planning, c'est quand même quelque chose de très contraint. On a des budgets. Il y a toute une série de choses extérieures.
Vous savez, parfois, il y a des coups d'essai comme ça qui se transforment en coups de maître. Il y a beaucoup de festivals qui sont nés comme ça.
Oui, c'est possible.
Et qui, après, sont devenus de très grosses machines. Robert Penavert, vous vouliez intervenir et préciser quelque chose, donner votre avis en tout cas.
Oui, voilà, c'est au sujet de la pérennisation de cet événement. Moi, je suis toujours surpris qu'à partir d'une certaine date et pendant 2 mois, il ne se passe plus rien à Toulouse. Pas grand-chose, voilà. Il y a des salles, il y a des touristes, il y a des Toulousains qui ne partent pas en vacances non plus.
Qui ne partent pas tout l'été.
Je ne saisis pas très bien pourquoi Toulouse n'a pas une... Alors, peut-être pas 2 mois de festival, mais pourquoi il n'y aurait pas... tous les ans, il n'y aurait pas au moins, jusqu'à fin juillet, début août, il n'y aurait pas des manifestations. Et moi, je vous garantis que, franchement, avec le niveau des nuits d'été tel qu'il est présenté cette année, ça va faire venir du monde de partout. Et il y a même des gens, j'en suis sûr, qui vont retarder leurs vacances parce qu'ils veulent écouter un tel ou une telle. Moi, j'en suis sûr. Puisque, en plus, ces trois-là qui viennent, on va y revenir dessus, ils ne sont jamais venus à Toulouse dans le cadre des saisons capitolines, du moins.
Et oui, et ce que je sais, c'est qu'il y a une volonté au niveau de Toulouse Métropole de construire une offre culturelle pendant tout l'été à Toulouse, entre autres pour les touristes, qui souvent ne font que passer. Et ça pourrait être un moyen parmi d'autres de les retenir à Toulouse.
Mais ils ne font que passer parce que rien ne les arrête.
Oui, mais voilà. On est bien d'accord.
Voilà. Ils passent à Toulouse, ils vont à Saint-Martin-de-Comminges, ils vont... Voilà, mais à Toulouse...
Ils vont à Albi, ils vont à la forteresse de Carcassonne.
Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent le soir ? Il n'y a rien. C'est clair.
Effectivement, c'est une question qui se pose. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses dans ces nuits d'été. C'est du quasi non-stop du 6 au 21 juillet. Pour ouvrir la série, Christophe Gresty, vous avez choisi de programmer non pas un récital, mais un concert avec un musicien, un artiste internationalement connu, qu'on aime beaucoup à Toulouse, où il s'est souvent produit, le catalan Jordi Savall. Il est en concert le 6 juillet avec ses ensembles La Capella Real et Esperion 21. Je pense que ce n'est pas un hasard si vous commencez avec Savall et ses musiciens, puisque ça s'inscrit dans un compagnonnage et même une forme de résidence au Théâtre du Capitole.
Oui, une forme de résidence non résidente, puisque absolument tous les projets que nous avions avec Jordi Savall depuis ont tous été annulés.
Et oui, je sais bien.
Donc c'était quand même, on a eu en tous les deux une série noire, et donc pour moi il était évident d'ouvrir ce festival avec lui. C'est idiot quand on dit qu'on adore Jordi Savall, parce qu'on est tous en grande admiration devant lui, devant la dimension musicale, humaine, devant cette carrière absolument prodigieuse, et aussi cette qualité d'explorateur incroyable. C'est le Christophe Colomb de la musique quand même, il a découvert des pans entiers
ressuscité, je ne sais combien,
du monde entier.
D'œuvres oubliées du monde entier,
de tous les continents, de... la Renaissance et après. Enfin, c'est
sur au moins deux siècles, pour pas dire deux siècles et demi.
Donc voilà, donc c'est un immense honneur d'ouvrir ce festival avec lui.
Et Jordi Savall, qui est programmé avec le Concert des Nations, cette fois-ci, le 10 janvier 2022, au Théâtre du Capitole.
Absolument, pour un concert Monteverdi, là, entièrement consacré à Monteverdi.
Voilà, des madrigaux de Monteverdi. Alors là, le programme qu'il va jouer, c'est un programme de musique du Portugal, d'Espagne et d'Amérique latine, Villancicos Criollos. Alors là, ça peigne de la moitié du XVIe siècle à quasiment la fin du XVIIIe.
Oui, absolument. Je crois qu'avec 8 chanteurs, 8 instrumentistes. Là, ça, c'est un programme qu'il a enregistré il y a quelques années, qui est absolument sublime et qui est un programme vraiment de voyage, d'oubli. Et voilà, c'est vraiment d'invitation au voyage. Là.
Eh bien, nous allons écouter maintenant un extrait de ce CD Villancicos Criollos, enregistré par Jordi Savall avec les ensembles La Capella Real et Esperion 21, CD dont le programme du concert du 6 juillet est largement inspiré. Voici, par exemple, La Danza del Hacha, la danse de la hache, pièce composée par un auteur anonyme du début du XVIIIe siècle, quelque part en Amérique latine. La Danza del Hacha, la danse de la hache, pièce d'un compositeur sud-américain non identifié, datant de la première moitié du XVIIIe siècle, interprétée par la Capella Real et Esperion 21 sous la direction de Jordi Savall, un extrait du CD Villancicos Criollos et du programme du concert que donnent les mêmes mardi 6 juillet à 20h. Au Théâtre du Capitole en ouverture des Nuits d'été. Et après cette soirée d'ouverture avec Jordi Savall, il va y avoir une sorte de triptyque consacré à Deodat Sévrac, compositeur originaire de Saint-Félix-de-Lauragais, où se trouve d'ailleurs sa tombe. 3 concerts et récitals les 7, 8 et 10 juillet. Alors en fait, il s'agit d'un hommage, puisque nous commémorons en 2021 le centenaire de la mort de Deodat Sévrac, un musicien dont l'œuvre mérite d'être redécouverte, Christophe Vesti.
Oui, absolument. Donc ces 3 concerts sont un report du mois de février, puisque en février dernier, la Bibliothèque du Patrimoine à Toulouse donc, devait ouvrir une exposition qui est ouverte donc, il y a quelques jours, puisque la bibliothèque a acheté un fonds, le fonds de la famille Sévrac, et expose quelques pièces à la bibliothèque. Et donc on avait résolu ensemble, évidemment, de rendre un hommage à Deodat Sévrac, qui est un très très grand musicien. Je veux dire, ses mélodies sont chantées vraiment par des chanteurs anglais, adore Sévrac. L'œuvre pianistique, pour moi, est aussi importante que celle d'Albéniz, par exemple.
Dont il a été l'assistant.
Absolument. Mais c'est vraiment, si vous voulez, à peine, c'est idiot la hiérarchie, mais pour moi, ça vient juste après Debussy et Ravel. C'est vraiment un corpus pianistique énorme et extraordinaire. Et alors, ce qu'on a fait, donc évidemment, il y aura une place à la fois à la mélodie, puisque on note du Capitole, la mélodie française, et puis au piano, parce que ça me semble un éclairage indispensable pour Sévrac, parce que c'est là qu'il est vraiment avec la mélodie le plus haut. Mais on a voulu aussi organiser un concert autour de son rapport plus compliqué à l'opéra. Mais il a écrit des opéras qui ne sont pas joués, qui ne sont plus joués. Notamment, nous donnerons des extraits d'un grand opéra qui s'appelle Héliogabale, qui a été joué une seule fois. Et puis, de larges extraits d'une opérette inédite qui s'appelle Le Roi Pinard, et qui est une œuvre inachevée et qui est tout à fait ravissante et drôle. Il y aura aussi des inédits, donc des œuvres jouées pour la première fois ce soir-là. Je regrette, nous évidemment nous ferons une captation de ces concerts, mais si je peux être non diplomatique, je regrette une grande radio nationale ayant connaissance de ces programmes ne les capte pas pour faire partager un pan inconnu du patrimoine d'un des plus grands compositeurs autour de 1900, si vous voulez. Sauf que là, il y a une conscience que nous n'avons pas, et c'est vraiment dommage. Des œuvres inédites de Donat Sévrac, on n'en joue pas tous les jours.
Oui, parce que c'est toujours redécouvertes, il s'agit de découvertes.
Ah oui,
c'est encore autre chose.
Donc voilà, je trouve que ce sont des concerts importants, donc je suis absolument ravi que le public toulousain soit avec nous, et je rêvais qu'ils aient une diffusion encore supérieure, mais c'est comme ça.
Bah, d'autant plus que l'année du centenaire de
oui,
sa mort, ça tombait sous le sens, a priori,
c'est
un peu curieux. Je donne deux petites anecdotes concernant Deodat Sévrac et sa musique. Debussy disait que la musique de Deodat Sévrac sentait bon, sa musique sent bon. Et Vladimir Yankelevitch qui disait Déodat de Cerdagne, parce qu'il a vécu à Céret, il est mort à Céret, il est enterré où il est né, à Saint-Félix de Lauragais. Déodat de Cerdagne prolonge à cet égard l'heureuse humeur de l'impressionnisme français. Il s'inscrit effectivement dans cette mouvance. Vous parliez de Ravel, Debussy. Alors, le 7 juillet, donc à 20h, Déodat à l'opéra avec l'opérette, justement, Le Roi Pinard, et puis Héliogabale. Anne Le Bozec au piano, Anaïs Constant, les chœurs du Capitole, Guillaume Chilem au violon et les forces toulousaines là, qui sont là. Le 8 juillet à 12h30, midi du Capitole, mélodie et chanson encore avec Anne Le Bozec, Anaïs Constant, Adèle Charvet et quelques autres. Et puis le 10 juillet à midi et demi, le récital de piano de Nathanaël Loin, encore un Toulousain. Donc il y aura du Déodat Sévrac, mais il y aura aussi du Vincent Dindy, du Albéric Manière qui étaient les deux maîtres de Déodat et du Albénis. Donc là c'est un peu la fratrie, la famille autour de Déodat Sévrac. Alors parmi les belles mélodies qu'on composé par Déodat Sévrac, il y a par exemple « Le ciel est par-dessus le toit » sur le célèbre poème de Paul Verlaine, chanté ici par Victoire Bunel. Le ciel est par-dessus le toit, mélodie de Déodat Sévrac, composée sur le poème de Paul Verlaine, chantée par Victoire Bunel, une Toulousaine d'adoption, accompagnée au piano par Sarah Ristorcelli, une des œuvres qu'on devrait entendre le 8 juillet lors du concert Mélodie et Chansons en hommage au compositeur de Saint-Félix de Lauragais. Entre-temps, le 9 juillet à 20h, il va y avoir une soirée Carmina Burana, dédiée à l'œuvre la plus fameuse de Karl Orff. Alors, vous avez appelé ça cantate scénique. Expliquez-nous un peu comment ça va se présenter et quels musiciens on va y entendre.
C'est sous forme de concert. Nous jouons la version pour deux pianos et quatre percussionnistes. Je dirais pas version de chambre, parce qu'il y a quand même 60 choristes, mais donc la petite version en quelque sorte, sans le grand orchestre, mais qui est une version que j'aime beaucoup, qui est très très belle. On a un beau trio de solistes. Il y a Nick Massis qui nous fait le bonheur d'être là. Il y a un jeune ténor qui est
appelé à revenir,
qui est très intéressant, qui s'appelle Levi Saïsek Kapan. Et un changement de distribution pour le baryton, puisque ce sera Stéphane Gens qui assurera la partie très difficile de baryton.
Voilà, et avec, pour accompagner, Nino Pavlenichvili et Jonas Vito. Là aussi, vous avez un bon casting, je pense, pour les pianistes. Et puis, évidemment, le chœur du Capitole, donc le 9 juillet à 20h. 11 juillet, de 17h à 20h, je le signale, il y a un rendez-vous avec le Ballet du Capitole pour une carte blanche aux danseurs de Kader Bellarbi, et c'est gratuit.
Absolument, oui, tout à fait. Les deux dimanches seront gratuits.
Profitez-en, là, vous avez 3 heures avec le Ballet du Capitole, gratuite. Allez-y, le 13 juillet à 20h, là il y a une proposition originale et très intéressante, en tout cas pour les cinéphiles et les mélomanes, un ciné-concert avec la projection du fantôme de l'opéra film muet de Rupert Julian datant de 1925, d'après le célèbre roman de Gaston Leroux. La projection va être accompagnée par l'organiste et compositeur Thierry Esquèche avec la soprano Vanina Santoni. Alors quand je dis que c'est original, c'est qu'habituellement les films muets sont plutôt accompagnés à l'orgue ou au piano, mais rarement avec une chanteuse, ça c'est quand même un peu nouveau.
Quand vous voyez le film, donc ce film mythique du fantôme de l'opéra, le cinéaste filme deux extraits de Faust comme si on était en représentation, en live. Il y a l'air des bijoux et puis le roi de Tulé, donc deux des grands airs de Marguerite, et qui sont filmés face à la chanteuse face à la caméra. Et donc je suis persuadé que, évidemment, à la création du film, il y avait une chanteuse qui chantait. Parce que sinon, ça n'a pas de sens de filmer pendant 4 minutes quelqu'un qui ouvre la bouche. Donc évidemment, cette musique, elle doit se faire entendre. Donc j'avais très envie de projeter le film, parce que notre écran, on a la chance d'avoir un écran de cinéma absolument sublime, qui prend tout le cadre de scène, donc c'est des conditions de visionnage exceptionnelles. Là, je parlais de bonbon tout à l'heure, je pense que c'est un merveilleux bonbon, le fantôme de l'opéra, parce que ça dit quelque chose vraiment à tout le monde. Il y a Thierry Esquèche, qui est un improvisateur extraordinaire, et qui tient l'orgue, non pas le piano, comme le fantôme dans le film, puisque le fantôme est à l'orgue du Palais Garnier. Bah, on parlait de luxe, d'avoir Vanina Santoni qui vient chanter les deux airs de Marguerite.
Oui. Voilà, ça, et c'était... avec Thierry Esquèche, moi j'ai eu l'occasion d'assister à la projection de La Passion de Jeanne d'Arc de Karl Dreyer dans le cadre du festival de Rocamadour avec Thierry Esquèche à l'improvisation à l'orgue au Grand Orgue de Rocamadour. C'était extraordinaire, donc je ne doute pas que ce sera là encore quelque chose de formidable. Et puis bon, il y a aussi cet acteur que moi j'adore dans ce film, Lon Chaney. Un des plus grands acteurs de l'époque du muet, rien que pour lui ça vaut le coup, je pense, d'aller voir ça. Mais en plus, avec l'accompagnement musical, ça va prendre, comme disait tout à l'heure Robert en parlant d'Electra, une autre dimension. 13 juillet 20h, le fantôme de l'opéra en ciné-concert, et le 15 juillet à midi et demi, à midi du Capitole, avec la jeune mezzo-soprano Aude Extremo, accompagnée par le pianiste Étienne Manchon. Vous avez titré ce récital Les Amoureuses. Alors évidemment, on est curieux, qui sont ces amoureuses?
Il y a Dalila et Carmen, mais il y a aussi Barbara, Yvette Guilbert. Enfin voilà, c'est un beau panorama, c'est une artiste formidable. Là aussi, c'est un report d'un concert qui était programmé, je crois, au mois de mars.
Oui.
Et donc, on a reporté à ce mois de juillet. C'est une artiste que j'aime beaucoup et que je n'ai pas eu encore l'occasion d'inviter. Donc, c'était une façon de qu'elle soit présente avec nous.
Alors, il y aura des airs et mélodies de Debussy, Massenet, Saint-Saëns, Rossini, Pauline Viardot.
Pauline Viardot, c'est une très belle mélodie, Ailouli, Mon cœur s'ouvre à ta voix, etc. Enfin, plein de belles choses.
Voilà, ça va nous donner l'occasion d'écouter une mélodie composée par Pauline Viardot. Je ne sais pas si c'est dans le programme, peut-être pas, mais en tout cas, chantée par Aude Extremo, accompagnée au piano par Étienne Manchon. Il s'agit d'une des 12 mélodies russes et celle-ci a pour titre Berceuse cosaque. Berceuse cosaque, l'une des 12 mélodies russes de Pauline Viardot, chantée par la mezzo-soprano Aude Extremo, accompagnée par le pianiste Étienne Manchon. Le duo est à l'affiche du Midi du Capitole du 15 juillet à 12h30 avec son programme Les Amoureuses. La suite, c'est le 17 juillet à 20h avec un des rendez-vous de prestige de ces nuits d'été, le gala Benjamin Bernheim, un des chanteurs de notre scène lyrique nationale les plus demandés aujourd'hui, artiste lyrique de l'année lors des Victoires de la musique classique 2020. Et donc le ténor franco-suisse va se produire le 17 au Théâtre du Capitole, mais il ne va pas être seul, il va même être très bien accompagné, Christophe Gresti.
Oui, en fait, c'est lui qui m'a demandé de le faire, j'ai trouvé ça tout de suite une merveilleuse idée. Ça fait longtemps qu'avec Benjamin Bernheim, on parle de projets, etc. Bon, rien n'a pu se faire jusqu'à présent. Donc là, on avait une date, enfin, complètement improvisée. Et puis, il m'a dit, j'aimerais bien chanter avec de très jeunes artistes. Il a dit très simplement, moins connu que moi. Donc on a parlé, puis voilà, je lui ai proposé des... Alors il y a des gens qu'on connaît un peu, même beaucoup, Anaïs Constant, Timoshenko, Mikhail Timoshenko. Et puis il y a par exemple une jeune chanteuse que je crois là vraiment absolument personne ne connaît, Lila Dufy, qui est venue me voir en audition il y a peut-être un an, que j'ai trouvé absolument extraordinaire. Et donc voilà, donc elle fait encore ses études à la Juilliard à New York, et donc elle participera à ce concert, elle chantera rien de moins que l'air de la folie d'Ophélie. Donc on s'est mis d'accord sur ses noms avec Benjamin, et puis surtout dès qu'il m'en a parlé, j'avais envie de faire le troisième acte de la Bohème, et donc le morceau de résistance, il y a plein d'air absolument magnifique, et le morceau de résistance de la soirée, c'est le troisième acte de la Bohème, avec tous les quatre.
Oui, Benjamin Bernheim, grand spécialiste de l'opéra français et italien, et donc c'est un programme d'air
français,
d'opéra, italien, de Gounod, Massenet, Rossini, Verdi, Puccini. Alors, on va écouter Benjamin Bernheim dans un de ses rôles signatures, celui de Desgrieux dans Manon, l'opéra de Jules Massenet. Il interprète ici l'air En fermant les yeux. En fermant les yeux, air de Desgrieux dans Manon, l'opéra de Jules Massenet, chanté par Benjamin Bernheim, un air qui pourrait être au programme du concert gala donné par le ténor franco-suisse le 17 juillet à 20h au Théâtre du Capitole. Le 18 juillet, il va y avoir une journée hommage à Nicolas Joël, l'ancien directeur artistique du Théâtre du Capitole, un de vos prédécesseurs, donc Christophe, décédé l'année dernière. Deux rendez-vous, deux projections d'opéra mises en scène par Nicolas Joël, Akhmatova à 17h et Mireille à 20h. C'est gratuit, sur réservation. Et concernant Akhmatova, c'est un opéra qui vous est cher, Christophe, puisque c'est vous qui en avez rédigé le livret.
Oui, absolument. C'est une longue histoire. Donc, c'est un opéra de Bruno Mantovani. Et nous avons choisi ces deux spectacles parce que ce sont les deux dernières mises en scène de Nicolas Joël, réalisées alors qu'il était directeur de l'Opéra de Paris. Voilà. Les deux ont été captés par François Roussillon. Et voilà, donc nous les projetons sur notre écran. Oui, en effet, Akhmatova est un opéra qui m'est très cher. D'ailleurs, l'Opéra de Paris, en hommage à Nicolas Joël, vient de le mettre sur sa plateforme de VOD, ce dont je suis très heureux, parce que en plus le film de Roussillon est absolument magnifique. Et puis Mireille avait fait sensation quand la production a été sensation positive et négative. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le spectacle s'est fait descendre de manière terriblement cruelle. J'ai rien à dire.
Je m'en souviens.
À la création. Et puis un an plus tard, François Roussillon avait sorti le DVD et il a reçu tous les prix possibles. Les Diapasons d'or, les quatre clés de ce que vous voulez. Donc c'était drôle. Enfin, c'est une histoire qui nous faisait beaucoup rire.
Voilà, Akhmatova, projection à 17h le 18 juillet et Mireille de Gounod à 20h le même jour, le 19 juillet. Alors, autre rendez-vous de grand standing avec la soprano bulgare Sonia Yoncheva, une des étoiles de la scène lyrique internationale actuelle. Et en parlant d'étoiles, son programme s'intitule Ad una stella. Il est composé de mélodies italiennes de Verdi, Puccini, Tosti, Tirendelli, Rota, Martucci, Leon Cavallo. Bon, voilà, vous voyez un peu le genre. Et là, c'est encore... un événement, hein, cette première de Yoncheva au Capitole, Christophe Christ.
Oh oui, moi je suis ravi évidemment de l'accueillir. Yoncheva, c'est merveilleux parce que c'est une vraie star, quoi. C'est la voix est celle d'une star, la voix d'une richesse,
sa capacité vocale,
d'une sensualité extraordinaire. C'est une artiste jusqu'au bout des ongles. Enfin, c'est une fille que j'adore vraiment.
Et elle adore la France, Yoncheva. Elle dit toujours d'ailleurs, c'est la France, c'est le premier pays qui m'a donné ma chance. Et Robert, un petit mot sur Sonia Yoncheva.
Oui, un petit mot, je ne dirais qu'un mot. Quand est-ce qu'elle viendra nous faire un spectacle ? Parce qu'en plus, Sonia Yoncheva, c'est une très belle voix, mais c'est également une bête de scène. Elle est formidable.
Une véritable artiste.
J'ai eu la chance de la voir à plusieurs reprises, mais elle est aussi surprenante vocalement que scéniquement. Voilà, c'est un tout, c'est une vraie artiste.
Oui.
Sonia Yoncheva, elle ne se paie pas juste de belles notes, même si elles sont magnifiques. Mais c'est une artiste, elle vit tous ses personnages.
Elle interprète.
Et elle interprète à merveille. Donc, Christophe Christie, dont la prochaine fois, c'est dans...
C'est bien, parce que là, je vais l'avoir sous la main, donc on va pouvoir parler sérieusement.
Elle pose un pied sur la scène du Capitole. On peut penser qu'il y en aura d'autres. Alors, ce serait dommage de ne pas écouter Sonia Yoncheva dans cette émission. La voici dans une interprétation d'une mélodie de Francesco Paolo. Tosti Ideale, elle est accompagnée par Antoine Paloc au piano. Les mélodies de Francesco Paolo Tosti, chantées par Sonia Yoncheva, accompagnée par le pianiste Antoine Paloc. Le duo est à l'affiche du Théâtre du Capitole le 19 juillet à 20h avec un joli programme de mélodies italiennes, Précipitez-vous. Et enfin, dernier récital des Nuits d'été le 21 juillet à 20h, où la scène du Capitole va accueillir une autre star de la scène lyrique actuelle, le contre-ténor polonais Jakub Józef Orliński, qui lui va être accompagné par l'ensemble Il Pomodoro, ensemble qu'on vient d'entendre à la Halograin ce 1er juillet. Première aussi pour Orliński à Toulouse, encore un petit événement pour lequel il va falloir vite réserver ses places à mon avis. Quel programme va être donné ce soir-là, Christophe Grissi ?
C'est un programme amoureux, donc évidemment d'opéra du XVIIe siècle et du XVIIIe, voilà, autour de l'amour et des tourments de l'amour. Et donc c'est un programme avec Il Pomodoro, mais sans chef. Donc avec je crois qu'il y a une dizaine de musiciens, et voilà, c'est un programme sur le tourment amoureux.
Donc que des airs d'opéra italien.
Absolument.
De l'époque que vous venez d'évoquer, Facce d'Amore, c'est le titre d'un CD qu'ils avaient enregistré il y a deux ans. C'est
tout
récent. Alors, langage de l'amour, on pourrait traduire ça comme ça. Ces dames diront, en parlant d'Orlinski, gueule d'amour peut-être.
Mais bon, c'est exactement ça.
C'est, voilà, on peut l'entendre comme on veut. Oui, Robert.
Oui, je veux dire, au même titre que Sonia Yoncheva que l'on vient d'entendre, là nous avons également affaire avec ce contre-ténor à un artiste absolument. Alors, vous savez, on a un peu l'habitude parfois, lorsqu'on parle de contre-ténor, d'imaginer des gens un peu crispés, un peu la cravate nouée, bon fait, etc. Non, 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 pas du tout. Lui, sur scène, même quand il est simplement accompagné au piano, là, ce ne sera pas le cas, mais c'est littéralement, c'est une bombe. Dès qu'il arrive sur scène, il capte, il sait faire ça, parce que c'est un artiste absolument redoutable. Et puis, en termes de tessiture aujourd'hui, de contre-ténor, voilà, ils sont deux ou trois à se promener sur le podium, et lui, il en fait partie incontestablement. Hein, voilà.
Tout jeune chanteur, il a 30 ans à peine, hein, Orlinski, qui a la particularité d'être un danseur de breakdance très réputé.
Oui. Ouais.
Peut-être que ça l'aide aussi, sans doute, j'imagine, à se mouvoir sur scène, on peut en tout cas le penser.
Mais parfois sur scène, il est très surprenant, je vous le dis, même en récital. Hein.
Voilà,
même
alors, récital. Voici un extrait du CD et du programme Facce d'Amore, Finché Salvo e l'amor suo, air de l'acte 1 de Scipione il Giovane, l'opéra de Luca Antonio Predieri, chanté par Jakub Józef Orlinski, accompagné par l'ensemble Il Pomodoro, dirigé par Maxime Emelianichev. Finché Salvo e l'amor suo, air de l'acte 1 de Scipione il Giovane, opéra de Luca Antonio Predieri, chanté par Jakub Józef Orlinski, accompagné par l'ensemble Il Pomodoro sous la direction de Maxime Emelianichev. C'est un extrait du CD et du programme Facce d'Amore que le contre-ténor polonais et Il Pomodoro vont donner le 21 juillet au Théâtre du Capitole pour le concert de clôture des Nuits d'été. C'est la fin de ce dernier numéro de la saison. Merci beaucoup à vous deux, Robert Pénavert et Christophe Gris, d'en avoir été les invités. Je rappelle que Les Nuits d'été, la magnifique série de concerts et récitals que nous vous avons présenté tout au long de cette émission, avec ses chanteurs, ses musiciens prestigieux, est à l'affiche du Théâtre du Capitole du 6 au 21 juillet. Il faut vous dépêcher de réserver vos places parce qu'elles partent très vite. Je vous invite donc à vous connecter au site www.theatredukapitole.fr pour acheter vos billets en ligne. C'est aussi à cette adresse que vous pouvez acheter et réserver vos places pour la dernière représentation d'Electra, l'opéra de Richard Strauss, ce dimanche 4 juillet à 14h30 dans la mise en scène de Michel Faux, et puis notez également ce samedi 3 juillet à 20h à la Halle au Grain que l'Orchestre National du Capitole est en concert sous la direction de la chef hongkongaise Elim Chan avec le pianiste Bertrand Chamaillou. Nouvelle soirée avec l'Orchestre du Capitole au même endroit le samedi suivant 10 juillet, toujours à 20h, cette fois-ci avec le violoniste Renaud Capuçon et le chef allemand Thomas Gugeis. Renseignements et réservations pour les deux dates sur le site www.onct.toulouse.fr. Merci à Christophe Aubry d'avoir assuré la régie technique de ce numéro, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité à cette émission tout au long de la saison. Rendez-vous à la rentrée, bel été et très bonnes vacances à tous.